Qu'à cela ne tienne, on a une très belle émission aujourd'hui. On accueille en studio notre première invitée que je suis très heureux d'avoir avec nous, Camille Chai, mon amie. Bonjour Camille.
Salut Kevin.
Très heureux de t'avoir. Pour les gens qui ne te connaissent pas, tu pratiques l'escrime en fauteuil roulant. Mais t'es pas en fauteuil roulant dans la vie de tous les jours.
Non, exactement. Moi, j'ai en fait, je suis née sans mon bras et ma jambe gauche. Donc, dans la vie de tous les jours, je porte toujours une prothèse de jambe, mais... Quand c'est le temps de faire de l'escrime, je m'adapte et je m'assois volontiers dans le fauteuil.
Parce que dans le fond, la version adaptée de l'escrime, comme on le connaît, elle se pratique normalement en fauteuil roulant?
Oui, toujours. En fait, c'est ça. Quand on parle d'escrime paralympique, tout le monde est en fauteuil, peu importe le handicap.
C'est le seul modèle qu'on retrouve aux Paralympiques.
Oui.
C'est un sport que tu pratiques depuis un an et demi maintenant.
Oui.
Comment se passe, disons, ton année sur le plan sportif en ce moment?
Ben écoute, ça se passe très bien. C'est quand même toujours aussi intense, hein, parce que bon, ça fait déjà un an et demi, mais ça a démarré tellement rapidement. Je te dirais que ça se passe donc très bien. Écoute, les défis continuent d'augmenter, d'évoluer. Je suis rendue à un stade où il faut que... là, la technique, j'ai quand même une très bonne base, mais là, la question, c'est surtout d'avoir un entraînement de masse, donc m'entraîner le plus possible.
C'est combien d'heures d'entraînement par semaine?
Écoute, ça varie quand même, parce que j'ai 36 000 projets à côté,
oui.
Donc j'essaie de composer avec tout ça, mais c'est quand même autour d'une dizaine d'heures. C'est quand même pas beaucoup. Il faudrait que ce soit plus, hein. On n'en a jamais assez, mais ça
c'est
prend...
C'est quand même une dizaine d'heures, c'est beaucoup, là. C'est comme le quart d'une semaine de travail pour quelqu'un au régulier. Là,
oui,
donc,
voilà, à peu près. Puis là-dedans, on compte ben, évidemment les entraînements d'escrime, mais il y a aussi la préparation physique, le temps que ça prend pour se rendre, pour revenir à la maison, tout ça. Donc oui, ça occupe une bonne partie du temps.
Sur les plans des compétitions, est-ce que tu as été occupé pas mal de ce côté-là?
En fait, j'ai été beaucoup occupée, plus l'année dernière, parce que comme c'est ça, la première année, je me suis lancée à fond la caisse, comme on dit. J'ai fait, en fait, il y a à peu près 5 Coupes du monde par année. Je les ai toutes faites. Cette année, ça va être un petit peu différent parce que il y a la question, en fait, des moyens, hein, du budget, mm-hmm. On peut pas l'éviter.
Parce que ça coûte de quoi, là, ces frais d'admission là?
Ça coûte, mais oui, ça coûte beaucoup, beaucoup d'argent, ne serait-ce que déjà le billet d'avion, les frais de compétition, l'hôtel, mm-hmm. La nourriture, le matériel, tout ça. Donc,
puis j'imagine le fait que l'escrime en fauteuil roulant, c'est une discipline paralympique quand même connue, oui, mais je veux dire, il n'y a pas des compétitions comme il y a des compétitions de basketball en fauteuil roulant au Québec à tous les mois, là.
Non, pas du tout, c'est ça, c'est beaucoup moins fréquent.
Il faut sortir à l'extérieur vraiment souvent pour y aller.
Et voilà, beaucoup plus. Mais c'est ça, il faut avoir les moyens. Ce que j'espère trouver justement une solution bientôt. Mais voilà, cette année, je sais que j'aurai moins de compétitions à faire, mais bon, ça ne m'empêche pas de continuer à m'entraîner.
T'es une athlète née, c'est pas le premier sport que tu pratiques, l'escrime en fauteuil roulant. T'en as pratiqué d'autres, comme le badminton.
Oui.
Qu'est-ce qui a fait en sorte que t'as vraiment voulu te consacrer à l'escrime? C'est quand même assez... C'est pas un sport qui nous viendra en tête à prime abord, l'escrime, là?
Non, c'est vrai, c'est vrai. Ben, en fait, l'escrime, j'ai découvert ça il y a une dizaine d'années quand, en fait, j'étais jeune, je faisais aussi beaucoup de vélo. J'avais un vélo adapté. Et moi, j'ai grandi à Laval. Et un jour, donc, je me promenais en vélo dans le stationnement d'un centre commercial et il y a un homme qui m'a approché. C'était un maître d'armes. Et il m'a dit que ça faisait longtemps qu'il cherchait une personne avec un handicap qui voulait entraîner avec l'espoir de se rendre jusqu'aux Jeux paralympiques. Et moi, qui connaissais absolument pas l'escrime, et par contre, ayant énormément bougé puis relevé des défis, j'étais vraiment intéressée d'aller découvrir ce sport-là. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, le sport de combat, je trouve ça tellement
beau. Ça vient
me chercher. Oui, ça vient me chercher beaucoup. Je trouve ça magnifique.
Il y a une espèce de guerrière qui se cache derrière toi.
Oui, exactement.
Est-ce que la seule chose que tu connaissais de l'escrime il y a 10 ans, au moment de cette rencontre fortuite-là, c'était un peu comme les chevaliers de l'époque ou...
Non, ben en fait, j'avais pas vraiment d'attente ou vraiment d'idée, mais ce que je te disais, ce qui m'a attiré, moi, c'est le combat, mais avec les épées aussi, la technique, la stratégie. Donc, c'était un peu ça que j'avais en tête à ce moment-là.
Là, de fil en aiguille, c'est devenu une véritable passion, même une vocation pour toi. Mm-hmm. T'as des ambitions paralympiques?
Oui, certainement. C'est sûr que mon but ultime, c'est de me rendre au prochain jeu à Tokyo en 2020. Pour être honnête ou réaliste, je sais que je vais avoir des montagnes à gravir entre-temps, mais si je peux te garantir une chose, c'est que je vais donner mon maximum pour pouvoir me rendre jusque-là.
Il y a beaucoup d'étapes qui mènent aux Jeux paralympiques. On parle d'épreuves de qualification qui s'en viennent dans les prochaines années.
Oui, par exemple. Il y a donc évidemment les fameuses Coupes du monde, les championnats, l'entraînement. C'est un peu tout ça. En fait, c'est tellement quotidien que je veux être capable de garder le cap et la tête haute jusque-là. Oui, exactement.
À travers tout ça, tu mènes aussi une vie bien remplie. Tu en as parlé tantôt, tu as un million de projets,
Oui.
dont un autre qui prend beaucoup de ton temps, qui
Oui.
est l'idée de devenir une conférencière à
Tout à
temps
fait.
plein, d'en faire ton emploi. Est-ce que je me trompe en disant qu'au Québec, il y a une espèce d'engouement ou un envie d'avoir des conférenciers ou des conférencières?
Non, je pense que tu as raison parce que les gens sont rendus à un moment, je pense, dans leur vie où il y a tellement de choses qui se passent, on se rend compte que le bien-être est quelque chose de très important, la connaissance de soi, le développement intérieur, entre autres. Mais moi, ce qui me touche beaucoup là-dedans, c'est justement vivant avec ma différence, mon handicap, c'est tellement voyant, apparent que... Ben justement, j'ai pas envie que ce soit passé sous silence ou caché. Je veux parler de ces choses-là parce que, bon, vivre avec un bras, une jambe en moins ou un handicap, je veux dire, on est quand même là, on a quand même plein de projets, d'ambitions, on est vivant, quoi. Donc, c'est un peu toutes ces belles expériences, une bonne attitude, une joie de vivre que j'ai vraiment, ça me tient à cœur, en fait, de partager ça le plus
Ce
possible.
sont les termes que tu explores grosso modo dans tes
Grosso modo,
conférences.
oui, voilà, ouais.
Mercredi, tu étais à Granby pour donner une conférence. Ça s'est bien passé?
Ça s'est très, très, très bien passé. C'était pour un groupe de femmes, une association culturelle des femmes de Granby. Ça s'est super bien passé. C'était une très, très belle soirée. Je suis bien contente.
Super. Si on vient un petit peu, en fait, moi, je suis curieux de savoir comment on réussit à garder un équilibre dans sa vie en ayant autant de projets qui sont énergivores et chronophages comme le sport avec des ambitions paralympiques, le fait d'être conférencier. Je sais que tu as d'autres projets autour de ça. Comment tu fais pour réussir à dormir 8 heures par jour minimum, comme c'est recommandé?
C'est une bonne question. En fait, je te dirais que je suis encore un peu dans l'exploration de trouver un peu mon équilibre dans tout ça parce que, en fait, plus il y a des projets qui arrivent, plus on en veut plus. Donc, écoute, je te dirais que il faut quand même avoir un certain équilibre mental, si je peux dire ça comme ça. J'apprends beaucoup, en fait, que c'est important de... Apprendre à relaxer, à se déposer, à prendre le temps d'un petit peu regagner mes énergies. Donc, j'essaie de dormir quand même assez, mais il y a toujours quelque chose quand même qui est très vivant et qui pousse à l'intérieur. Et le fait d'avoir aussi mes amis, ma famille qui sont autour de moi, c'est un élément très, très important qui pèse dans la balance aussi par rapport à mon équilibre.
À travers tout ça, il y a aussi une recherche de financement, de
Oui.
dons, de commandites, parce que
Oui.
la pratique d'un sport d'élite, c'est vraiment coûteux. Est-ce qu'on peut avoir une idée de combien ça peut coûter en termes d'équipement puis d'inscription de
Oui.
pratiquer l'escrime?
J'ai pas de chiffres exacts, mais juste pour avoir une idée, juste pour les Coupes du Monde, les compétitions, on peut dire à peu près 2 000 $ par compétition. Donc, on part déjà à 10 000 en partant. Après ça, il y a les frais, des frais quelconques par rapport à la fédération ou les déplacements, les entraînements, le suivi aussi. Un minimum de 15 000, je dirais, grosso modo.
Est-ce que tu dirais, parce que tu sais, bon, ça, c'est un fait qui est connu dans l'ensemble du sport amateur, la difficulté d'aller chercher du financement. Est-ce que tu dirais que c'est doublement difficile en termes d'investissement personnel et d'investissement d'argent quand on est un athlète avec un handicap?
Ah oui, je te dirais que oui, parce que c'est ça, j'ai eu la chance de l'expérimenter l'année dernière. Donc, comme on dit, l'argent, c'est une chose, mais physiquement, le fait de... Ça m'est arrivé de partir en compétition, donc de me rendre toute seule à l'aéroport avec mon gros sac d'escrime, avec toutes mes armes et mon matériel dedans, avec le fauteuil roulant qu'il faut aussi traîner.
Trimballer, ouais.
Trimballer, c'est ça. Donc, c'est quand même sportif, hein, c'est le cas de le dire. Surtout en plus en hiver, ben, il y a d'autres enjeux. Donc, c'est un énorme investissement. Je ne sais pas si les gens sont conscients du niveau de temps, d'énergie, de motivation que ça demande. C'est énorme quand
Ben
même.
oui, je voyais comme par exemple le Comité paralympique canadien tenait sa coupe parafort hier. Puis j'ai remarqué que pour l'achat d'une luge, quand on pratique le hockey luge, dans les 4 chiffres. Pour s'en procurer une, c'est
Ben voilà.
extrêmement cher. Et même dans le quotidien, dans l'entraînement, tu me faisais penser à un truc que j'avais jamais réfléchi, mais le coût de stationnement au stade
Ah.
olympique, c'est super cher. Des fois, on
Oui.
n'a pas les moyens de se le permettre.
Ben, des fois, on n'a pas les moyens. C'est mon cas à chaque fois, à chaque semaine. Écoute, le stationnement là-bas coûte 16 $. Donc, si j'y vais même juste un minimum de 2 fois semaine ou alors
Ça
plus,
monte vite.
ben oui, ça monte vite. Et sachant que j'ai déjà besoin d'argent pour payer le reste, je veux dire, ça finit plus. On tombe dans le négatif.
Donc, tu dois te stationner un peu plus loin, puis là, on
Voilà.
repart l'entraînement dès la sortie de l'automobile.
Exactement. Le combat commence beaucoup plus tôt qu'après le. le en garde, prêt, allez.
Heureusement, à travers tous ces combats-là, ces obstacles-là, tu as pu compter sur un mentor. Ben, mm-hmm. Tu me disais que tu avais eu des mentors dans ta vie, autant pour ta partie conférencière qu'à l'école. Oui. Mais il y a aussi un mentor qui a joué un rôle important dans ta vie sur le plan sportif, qui est Pierre Mainville.
Tout à fait.
Que tu as rencontré, bon, ben, c'est un peu lui qui t'a donné qui a servi de bougie d'allumage pour lancer ta carrière d'escrimeuse en fauteuil roulant. On va aller le rejoindre au bout du fil dans un instant, mais est-ce que tu peux me dire comment ça s'est passé, votre rencontre, les deux?
Oui, certainement. En fait, j'ai quand même un bon souvenir, hein. Ça fait à peu près un an et demi. Il y a une amie à moi qui le connaissait, donc il m'a donné son contact. J'ai appelé Pierre et je me souviens qu'on a eu une très belle discussion où il m'a vraiment dit, en fait, tout ce que ça comprenait, le fait de rentrer, en fait, dans Team Canada, dans l'équipe nationale.
Mm-hmm.
Et il a été vraiment clair dans le sens qu'il m'a dit, Camille, il dit, si tu as envie de faire partie de l'équipe, que tu es motivée, que tu es engagée, il dit, tu peux compter sur moi, je vais être là pour m'entraîner avec toi et pour te partager tout mon bagage, tout ce que j'ai appris dans ma carrière d'athlète. Donc, et quand il m'a dit ça, c'est tellement venu me chercher que je me suis dit, ah oui, je peux pas laisser cette place-là à une autre personne, c'est moi.
Je veux saisir l'occasion.
Exactement.
Puis, ben, bon, t'es sûrement pas sans savoir qu'il a été en Italie pour des compétitions récemment.
Oui.
Ça s'est très bien passé de son côté et il est de retour au Québec depuis peu.
Oui.
Puis on va pouvoir aller le rejoindre au bout du fil dans un instant après cette petite intermède musicale.